cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe, le 11 novembre 93 à Saint-Gildard.
En philosophie du vivant, après avoir découvert l'âme, c'est la première induction. À partir de la diversité de nos opérations, nous devons découvrir en premier lieu cette source cachée de vie. Et toute la philosophie de Platon et d'Aristote était pour répondre aux traditions religieuses qui affirmaient la distinction de l'âme et du corps et montraient qu'il ne s'agissait pas là de mythes, d'un simple symbolisme, mais d'une réalité. Je dis ça, c'est parce que c'est très important de voir comment le point de vue de l'âme a été introduit en philosophie. Le mot Dieu et le mot âme sont des mots qui proviennent des traditions religieuses. Pas le mot nous et intelligence. Pas le mot volonté. Et c'est toujours très intéressant, du reste très intéressant à faire comme petite étude, de regarder toutes les grandes vieilles traditions religieuses, et entre autres la tradition judéo-chrétienne, qui a joué un rôle plus important que toutes les autres traditions religieuses. De fait, évidemment, il y a les traditions de l'Asie qui seraient parallèles, les traditions de l'Inde qui ont été si importantes et qui demeurent d'une certaine manière plus actuelles que les traditions religieuses judéo-chrétiennes qui ont été dépassées par le point de vue des vertus théologales. Les vertus théologales mettent l'homme à un niveau tellement élevé que la corruption des vertus théologales à laquelle on assiste font des chutes plus importantes que la corruption simple tradition religieuse. Faut être attentif à ça, autrement il y a des tas de choses que nous ne comprenons rien du tout dans notre monde d'aujourd'hui. Vous voyez, est-ce que je vous rappelais ce simple passage rapide au Brésil, quelqu'un qui est là depuis 10 ans me disant c'est le syncrétisme qui attaque la foi aujourd'hui, qui attaquent l'espérance et la charité. Ce sont les sectes. Mais c'est un mal plus profond que le mal moral. Parce que ça détruit tout le mystère de la grâce. Et ça va plus loin. Comme l'aspect de laïcisation radicale détruit plus profondément l'homme que un aspect purement immoral. C'est plus radical. Et c'est peut-être cela auquel on doit être particulièrement attentif en tant que chrétien et en tant que philosophe. En tant que chrétien, le syncrétisme. En tant que philosophe, la laïcisation qui se fait à travers toutes les idéologies athées. Et redécouvrir les points qui sont particulièrement rejetés. Dieu et l'âme spirituelle. Parce que quand il y a la négation de l'âme, la négation de l'âme aujourd'hui est présente dans toutes les idéologies athées. une théologie chrétienne. Dans l'encyclique du Saint-Père, la dernière, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Sous-jacent à tout ce que dit le Saint-Père, il y a la négation de l'âme. Du reste, le Saint-Père le reconnaît. Hein. Il le dit. C'est la négation de l'âme qui supprime radicalement le point de vue moral de l'âme spirituelle. Alors, je vous ai déjà dit la conclusion que j'ai entendue de mes propres oreilles de certains théologiens catholiques. Inutile de parler de l'âme aujourd'hui, ce n'est plus sur le marché philosophique. Ce qui est vrai, ce n'est plus sur le marché philosophique. Quelqu'un comme Merleau-Ponty, le premier Merleau-Ponty, la distinction de l'âme et du corps demande d'être supprimée. Pourquoi ? Parce que tout s'explique par le point de vue de la conscience, sinon on ne va pas plus loin. C'est le danger. C'est vrai que la conscience que j'ai implique toujours l'unité. La conscience que j'ai de mes activités intellectuelles et volontaires implique tout le temps l'unité de la personne humaine. Alors on est très attentif à l'unité de cette personne humaine, mais on ne veut pas accepter le pourquoi cette unité. Pourquoi y a-t-il une unité fondamentale dans mon activité? C'est parce qu'il y a l'âme. Donc, le grand et le gros problème de la philosophie du vivant que Platon et Aristote ont mis en pleine lumière. Je crois que la philosophie de Platon, c'est la philosophie de l'âme. Et la philosophie d'Aristote, c'est encore la philosophie de l'âme. Ce sont deux philosophies qui, toutes les deux, sont centrées sur le problème de l'âme. La différence, c'est qu'Aristote montre que l'âme et le corps forment une unité substantielle et que Platon sépare les deux. Au moins le premier Platon, peut-être que le dernier Platon, peut-être, ce serait à voir de très près. La séparation de l'âme et du corps n'est pas tout à fait la même, parce qu'on réintroduit la sensation. Cette distinction de l'âme et du corps est reprise en terre chrétienne avec tous les pères de l'Église. Elle est présente chez les grands théologiens jusqu'au début du siècle, même jusqu'à la moitié de ce siècle, je crois. Vous regardez quel est le moment où, de fait, même chez les théologiens aujourd'hui, on a peur de parler de l'âme. Il n'y a pas de négation absolue, mais au fond, il y a une négligence exprès, consciente, de ne pas en parler. Parce que ce n'est plus sur le marché philosophique. Alors les théologiens ont peur d'être naïfs en parlant de l'âme. Alors, si on ne parle plus de l'âme, je ne vois pas comment on peut parler encore de la morale, de l'âme spirituelle. Donc là, il y a un très gros problème. Tous, nous devons tâcher de comprendre comment cette induction de l'âme s'impose à nous. Je ne peux pas supprimer cette induction. Elle commande toute la philosophie du vivant. Et une fois que j'ai découvert la présence de l'âme, je découvre les degrés de vie. Vous voyez, je passe du tiesti au pos, la manière dont l'âme, de fait, s'exprime et se développe à travers le corps. Le degré de vie végétative, la science biologique aujourd'hui et montrer que la science biologique ne supprime pas la philosophie du vivant. C'est deux choses différentes. Mais il y a une confrontation qui est très très intéressante parce que la théologie, la philosophie, la science biologique permet d'avoir une connaissance de la cause matérielle beaucoup plus développée. Mais c'est la cause matérielle. Et la cause matérielle prise pour elle-même. Donc, vous ne pouvez pas transporter une conclusion scientifique en philosophie. Il faut être conscient que ce n'est pas le même degré d'abstraction. La philosophie ne peut pas se séparer de l'homme. Tandis que la science biologique, elle essaie de comprendre de la manière la plus précise ce que sont les lois d'une vie qui se réalise dans un corps. Donc, premier problème, le vivant de vie biologique, de vie végétative. Elle a quelque chose d'extrêmement intéressant et important. Alors, il faudrait voir, pour ceux qui connaissent bien la science biologique, voir tout ce qui n'est pas intégré dans la philosophie du vivant au niveau vie végétative. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas intégrées et qui demanderaient de l'être. Ce que dit Aristote sur la vie végétative de l'homme reste vrai et reste, encore une fois, assez lointain de ce que dit la science biologique. Second niveau, la vie passionnelle. C'est-à-dire la vie sensible. N'oublions pas que la philosophie du vivant se fait à partir de l'homme et non pas à partir des petits animaux ou des gros animaux. Je ne peux pas faire une philosophie du vivant de l'hippopotame ni de l'araignée, bien que l'hippopotame et l'araignée peuvent m'intéresser énormément au point de vue philosophique. C'est vrai. Donner des exemples très particuliers. Mais je ne peux pas faire la philosophie du vivant autre que celle de l'homme. Puisque la philosophie du vivant implique une nouvelle expérience. L'expérience de l'opération vitale. Cette expérience de l'opération vitale, je peux la transposer per similitudem, par mode de similitude, dans l'animal. On verra ça. Toutes les passions, je peux les retrouver chez les animaux. Il faudrait accrocher toutes les passions et mettre un animal particulièrement explosif de telle ou telle passion. Ce serait très intéressant, ça. Parce que c'est quand même dans l'animal que je trouve quelquefois une matière particulièrement native. Les passions. Les passions, c'est quelque chose de commun. L'œcuménisme du vivant. Du vivant qui a beaucoup de demeures. Et c'est évidemment à l'égard des passions que l'œcuménisme du vivant est particulièrement fertile et intéressant. Donc voyons bien la distinction des trois degrés de vie qui se fait à partir des opérations vitales. Et et selon l'incarnation de ces opérations vitales, selon que ces opérations vitales sont plus ou moins liées au corps, à partir de là que je fais les degrés de vie, ou bien selon que ces opérations vitales, c'est plus juste de le dire, se libèrent du corps. L'opération, la vie végétative, elle est substantiellement liée au corps. Et c'est ça qui est très intéressant dans le point de vue de la vie végétative, c'est que ces opérations étant substantiellement liées au corps, je vois comment le corps est étudié en philosophie du vivant comme un principe propre. En métaphysique, ce n'est pas un principe propre. Et je dois tout le temps me rappeler ça. Comment se fait-il qu'en philosophie du vivant, le corps est un principe propre, intégré dans la philosophie du vivant, tandis qu'en métaphysique, le corps n'est regardé que comme conditionnement de l'être. Et ça, je crois que c'est très important de bien saisir ça. Ça fait comprendre la différence entre la vie et l'être. Dans une perspective de la vie humaine, le corps est un principe essentiel. Tandis que dans la perspective de la philosophie première, de la métaphysique, le corps n'est qu'un regardé que comme conditionnement. Donc il n'est pas intégré comme un principe propre. La matière n'est pas principe propre de la métaphysique, mais elle est principe propre de la vie. Alors, ça c'est quand même très important à bien saisir pour ne pas faire de confusion. Et puis il faut essayer de saisir petit à petit pourquoi d'un côté le corps n'est pas un principe propre. Et de l'autre côté, au contraire, il est un principe propre. Mais une question d'expérience. Le chemin d'existence n'est pas lié au corps. Tandis que ma vie et toutes les expériences que j'ai de ma vie sont liées au corps. Donc, après la vie végétative, la vie passionnelle, sensible, elle implique la connaissance des sensations, de toutes nos sensations, et la connaissance affective. Nous avions vu pas mal la connaissance des passionnés, la connaissance sensible l'année dernière, le toucher et l'œil, les deux extrêmes. Et évidemment, je n'ai pas un sens précis du toucher du chien quand il me donne la patte. Le toucher d'un singe qui me donne une bonne petite caresse. Vous avez un sens du toucher par vous-même et vous le transposez vis-à-vis des autres. Il ne faut pas oublier que le toucher est très différent, même pour la diversité des hommes. Il y a des hommes qui ont un toucher d'hippopotame. Il y en a d'autres qui ont un toucher tout à fait différent. Alors on ne peut plus comparer, on ne peut pas dire angélique, parce que c'est pas angélique. Mais bon, faut le dire. d'Aristote dit que c'est à partir du toucher que l'intelligence humaine va pouvoir s'élever plus ou moins loin, et que carnes mollas, expression de Thomas d'Aquin, qui vient d'Aristote, Aristote dit en grec, carnes mollas permet un développement d'intelligence beaucoup plus grand que ceux qui ont un toucher qui n'implique pas les carnes mollas. Connaissance sensible, fondamentalement, c'est le toucher. Les connaissances sensibles, dans ce qu'elle a de plus spirituel, c'est le regard, c'est la vision. Ce côté des connaissances sensibles doit être amplifié, développé du côté affectif. C'est une manière affective que je dois compléter cette connaissance cognitive de la connaissance sensible et la connaissance de la passion. Alors, qu'est-ce que c'est que les passions? Je vous renvoie au texte de saint Thomas. Alors n'oubliez pas que saint Thomas, quand il fait ça dans la Somme, il est théologien. Dites pas que c'est un traité des passions philosophiques, non. Il faudrait reprendre tout ce traité des passions de saint Thomas au niveau théologique, le reprendre au niveau philosophique, et faire une étude analogue à cela, au point de vue philosophique. Une étude aussi fouillée que celle de saint Thomas. Parce que c'est quand même très important aujourd'hui. C'est important de pouvoir comprendre, voyez, ce que représentent ces passions. Parce que, comme dans la connaissance sensible, c'est le premier moment de la connaissance. Du côté passionnel, c'est le premier moment d'une affectivité. L'affectivité commence par les passions, commence par ce qui est instinctif en nous. Ça, on le verra au terme, après avoir vu les passions, on pourra se poser la question, qu'est-ce qui distingue les passions des instincts? Parce que ce n'est pas la même chose, et cependant, ça se tient. Il y a des similitudes qui seraient très intéressantes à bien voir. Alors, qu'est-ce que c'est que la passion? La passion, comme le mot l'indique, c'est notre sensibilité qui est émue d'émotion. L'émotion est passionnelle. Qui est émue, c'est-à-dire qui pâtit sous l'action du bien et du mal. Mais il faut une certaine connaissance de ce bien et de cette mal pour que je puisse m'attirer. Prenez des exemples très simples, hein, et rendez ces exemples pour vous très, très lumineux, si j'ose dire, si on ose parler d'une passion lumineuse. Le matin, quand vous prenez votre petit café, faites attention à la sensation. S'il est bon ou mauvais, potable ou insupportable. S'il est chaud, froid, et il y a une passion qui s'éveille, dès que vous prenez quelque chose qui est bon ou mauvais, il y a une passion. Une passion de dégoût. Oh, effrayant. Vous faites une grimace. Vous avez envie de renvoyer la chose. Et au contraire, ah, mais aujourd'hui, le café est particulièrement bon. Le lait, pour ceux qui sont pour le lait, là, il y a moins de variété. Hein. Parce que le lait a ce privilège d'être moins fabriqué et d'être plus naturel. Alors évidemment, si on avait du lait qui sortait directement de la ferme, on verrait des différences. Mais aujourd'hui, on le trafique quand même un peu. Soit. Alors on a un lait œcuménique. besoin terrible de boire le vin. Au point de départ, c'est du bon vin, et après, c'est du vin, tout simplement. Il suffit, parce qu'on est pour la quantité. On passe de la qualité à la quantité. Dans tous les domaines affectifs, on voit ça. C'est extrêmement curieux. Et c'est là où on abîme l'aspect passionnel par la quantité. Tandis qu'au contraire, on relève l'aspect passionnel par la qualité. Alors la passion, c'est la réaction profonde que nous avons en face d'un bien sensible, aimable, que nous aimons. Il y a des biens sensibles qui nous attirent profondément. Il y a des biens sensibles qui nous repoussent, qui créent en nous des frayeurs. Il y a des biens sensibles, au contraire, qui nous attirent. Il y a des forces d'attraction terribles et des forces de répulsion. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au plan philosophique, on doit analyser ce qu'est la passion. Tandis qu'aujourd'hui, au point de vue psychologique, on n'analyse pas la passion. On regarde l'exercice de la passion, on la décrit. Et on la décrit quant à ses effets. On ne la regarde pas pour elle-même. On la regarde dans la mesure où elle abîme, ou dans la mesure où elle développe. Elle épanouit dans la mesure où la passion est captative, dans la mesure où la passion permet un don, dans la mesure où elle accueille et dans la mesure où elle repousse. Mais c'est vraiment les effets, parce qu'on regarde toujours l'exercice, tandis qu'en philosophie, là, on peut analyser. Et c'est là où l'analyse de saint Thomas des passions serait très intéressante à voir, pour voir si cette analyse peut être immédiatement transposée en philosophie, ou est-ce qu'elle demeure théologique. Je vais le faire un tout petit peu avec vous, puis vous continuerez. Le traité des passions de saint Thomas, c'est une chose que chacun d'entre vous doit avoir lu. Qu'on parle de la vie sensible, il faut avoir lu cela. C'est du reste une manière très élégante d'entrer dans la pensée de saint Thomas. Parce que c'est traité des passions, ça éveille en nous un désir passionnel de lire ce traité. Une fois que vous serez le désir passionnel sera éveillé, vous jeterez dans ce traité des passions de saint Thomas. C'est quand même bien, vous avez pas de nourriture à nous arranger, mais il faut l'avoir lu, c'est très très bon. Et avec des psychanalystes modernes, c'est très intéressant à faire. J'ai fait l'expérience avec certains qui désiraient du reste faire cette expérience. Ils ont été très étonnés que voir qu'un théologien comme Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, fasse une étude si prolongée des passions. Je pensais que les théologiens passaient par-dessus au-dessus. C'est vrai que beaucoup de théologiens le font. Mais Thomas d'Aquin est le théologien qui a intégré les passions dans son étude théologique. Alors, vous voyez, le raisonnement de certains, ce que saint Thomas a fait de son temps, faisons-le d'une autre. Il a intégré les passions, intégrons le freudisme. Thomas. Et on va essayer de comprendre si c'est d'ordre philosophique ou d'ordre théologique. Parce qu'il y a tout un traité des passions qu'il faut faire. Après avoir traité des actes humains, il nous faut étudier les passions de l'âme. D'abord, en général, puis chacune en particulier. Donc, une distinction intéressante in generali, in speciali. Alors, est-ce que c'est une distinction théologique, ça? In generali, in speciali. Est-ce que c'est une distinction philosophique? Ou situer une telle distinction? In generali, in speciali. Réfléchissez là-dessus. Il faut le demander à la fois prochaine. C'est intéressant. Vous lisez ça, Thomas, d'habitude. Vous dites ça, oui, in generali, in speciali. Très bien, très bien. Puis on lit ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette division? N'oubliez pas que c'est par les divisions qu'on saisit le mieux la pensée d'un auteur. Quand vous devez faire une recension rapide d'un auteur, regardez la table des matières. La table des matières, c'est une manière de diviser le sujet. Et voyez tout de suite si la division est bonne ou si elle est mauvaise. La division est une opération logique. Je divise. Et la division est au cœur de la dialectique. Et elle est au cœur de la pensée analogique. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, vous avez une division qui vous conduit à une pensée analogique. analogique distingue, la division dialectique sépare. Et il y a analogique et univoque. Vous voyez tout de suite, hein, on est là devant un problème très intéressant, la manière dont ça me divise. L'étude générale peut se diviser en quatre parties. Le sujet des passions, on dit le siège des passions, mais en réalité c'est le sujet des passions. Le sujet des passions, le siège, on ne voit pas comment les passions se tiennent debout, ou assises, ou à plat ventre, ça dépend quelle passion. Enfin, l'audace, c'est nécessairement debout. Le déni aussi. Mais la joie, c'est un canapé. Un gâton dans le plein. Je suis bien détendu. Le siège des passions, c'est très amusant. Alors il y a des sièges style la Louis XV. Et style un siège de l'an. Style de l'an. L'empereur, ça fait différent, c'est pas la même chose, pas Napoléon. Donc le siège.